On s'est laissé porter par ces textes-là, les chapitres 15, 16, 17 du livre de l'Exode vers la Sainte Montagne. Vous voulez arriver maintenant à cette Sainte Montagne.
Alors là-haut, qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de nid?
Oui, c'est un nid impressionnant là, dans la paroi du rocher. Si ce n'est pas un nid d'aigle, ça mériterait de l'être. En tout cas, l'image vient très bien. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres et une nation sainte. Je vous ai emmené sur des ailes d'aigle. Et cette comparaison des ailes d'aigle, là, est reprise de façon plus détaillée dans le Deutéronome. Au pays du désert, il le trouve, dans la solitude lugubre de la steppe. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil, tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes et le prend, il le soutient sur son pennage. Dieu est seul pour le conduire. Il plane. Alors ici, le mot évoque un des premiers mots du premier chapitre de la Genèse. Merarefet. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et un vent tournoyait sur les eaux. C'est le même mot, merarefet. Et il y a certainement des analogies profondes entre le récit de la création et puis le récit, les récits que nous allons lire ici, on y voit comme une nouvelle création. Mais alors, tenez, prenons le texte un petit peu plus haut là, parce qu'on va trop vite, on va trop vite maintenant. Le troisième jour, après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï et ils campèrent là dans le désert. Et puis tout d'un coup, les verbes qui jusqu'au maintenant étaient au pluriel, tout d'un coup, on parle au singulier. Israël campa là en face de la montagne. Et la marche qu'on a faite là depuis l'Égypte jusqu'ici, c'est aussi une marche de la multiplicité vers l'unité. Et on considère que cette unité est comme une condition indispensable au don de la Torah. C'est pour ça peut-être qu'on commence avec la paracha au chapitre précédent, au chapitre 18, la paracha de Yitro. Parce que Jethro, le beau-père de Moïse, le père de Tsipora, la femme de Moïse, joue un rôle décisif dans ce passage de la diversité à l'unité. Il y a trois personnages qui ont toujours intrigué beaucoup la tradition juive, parce que bien que n'étant pas du peuple élu, il joue un grand rôle dans la destinée du peuple élu. Le premier, c'est Melchisédek, roi de Salem, gardons-le pour Jérusalem. Là. Le troisième, c'est Balaam, on parlera, l'ânesse de Balaam. Et puis, celui-ci, Jethro. Dans la tradition juive, là, c'est la parashat Yitro. Alors, je prends au chapitre 18, hein, et ça enchaîne avec Amalek qu'on a lu avant d'arriver. Alors, Jethro entendit raconter tout ce que Dieu avait fait. Il prit Tsipora, la femme de Moïse, après qu'il l'eut renvoyée. Quand est-ce que Moïse a renvoyé Tsipora? Eh bien, c'est très curieux. On dit nulle part que Moïse a renvoyé Tsipora. Mais ça n'a pas échappé à l'attention ici. Et c'est très curieux. La première qui a mis le nez dans la littérature juive, c'est une certaine Renée Bloch, qui est morte tragiquement dans un accident d'avion. Et aussi Joseph Vermech, là, qui a écrit un livre sur Jésus. Il y a toute une série de références dans la tradition. Moïse ne se serait plus tellement intéressé à sa femme après la vision du buisson ardent. C'est assez curieux, cette histoire-là. Il ne s'est pas brouillé avec elle, mais on dirait que son attention a été comme dépolée. Et c'est important de montrer ça, vous voyez, parce que on entend toujours dire que la chasteté chrétienne, tout ça, c'est des contaminations de gnosticisme, de cette méfiance vis-à-vis de la nature, pas que Dieu a faite bonne, et que... Eh ben, c'est vrai, la sexualité dans la Bible est magnifiée, il n'y a aucune méfiance contre les valeurs de la nature, de la sexualité, mais ceci dit, la femme et l'homme sont faits l'une personnellement et l'autre aussi à l'image de Dieu. Et alors, pour Dieu et pour Dieu seul, eh bien, on peut télescoper toutes les valeurs les plus belles de la création pour aller directement vers le Créateur. On voit ça déjà dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus et la Sainte Vierge ont vécu de cela, cette polarisation vers Dieu. Et paradoxalement, l'histoire des saints nous montre que des êtres qui sont complètement, personnellement polarisés par Dieu, eh bien, quelquefois, entre eux, c'est entre eux que se nouent les amitiés les plus extraordinaires. Il y a un centuple qu'on trouve, d'autant plus qu'on ne le cherche pas. je pense à Saint-François d'Assise et Sainte-Claire, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, Sainte-Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, etc. Et tout simplement, on peut remarquer que dans tout type de communauté, c'est dans la mesure où chacun garde personnellement sa dimension verticale et de rapport personnel avec Dieu, que les rapports horizontaux s'en trouvent vraiment, les partages, comme on dit maintenant, sont vraiment ce qu'ils doivent être. C'est vrai des ménages, c'est vrai des communautés religieuses. On a flanqué un peu en l'air certaines valeurs de la vie canoniale. Je crois que ça n'a pas amélioré la vie fraternelle. Et on sent tout de suite dans une communauté, c'est dans la mesure où les frères, les sœurs ont une vie personnelle de prière, que les rapports horizontaux sont les plus beaux, les rapports fraternels. C'est un paradoxe qu'on trouve dans la Bible. Alors voilà, je crois que c'est intéressant de noter ça au passage. Oui. Le Nouveau Testament, encore une fois, épanouit des valeurs qui sont déjà en germe dans la tradition biblique. Alors revenons à Jéthro, il arrive à la montagne de Dieu, alors on s'embrasse, Moïse raconte tout ce qui s'est passé, Jéthro se réjouit, et puis il sait que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Et ce Jéthro est appelé Kohen Midian. Kohen est un nom qui est comme Melchisedec, Kohen El Elyon, c'est un mot réservé justement au prêtre du Dieu vivant. Et même il y a une espèce, comme on dirait en droit canon, de communication in sacris. Il va manger avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Alors le lendemain, Jéthro voit Moïse rendre la justice, pas du matin au soir, les gens font la queue, ils ont des... Alors il lui dit, si tu continues comme ça, jamais tu ne tiendras le coup. Écoute le conseil que je vais te donner pour que Dieu soit avec toi. De quoi il se mêle ce païen pour donner des conseils à Moïse pour l'organisation du peuple de Dieu. Et il lui dit, mais il faut structurer ce peuple. Choisis-toi parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, chefs de milieu, de centaines, de cinquantaines, de dizaines. Ils jugeront le peuple en tout temps. Et puis les causes importantes, on en référera directement à toi. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Et alors voyez-vous, ce passage à l'unité là, on commence là peut-être parce que ce passage de la multiplicité à l'unité apparaît comme une condition de la réception de la Torah. Et est-ce que vous ne voyez pas une étrange analogie de structure avec le Nouveau Testament ? Pour nous, le don de la loi, c'est la Pentecôte, pas le Saint-Esprit qui inscrit la loi dans le cœur, selon les prophéties de la Nouvelle Alliance dans Jérémie et dans Ézéchiel. Et Saint-Luc, est-ce par hasard qu'il insiste, tous d'un même cœur étaient assidus dans un même lieu à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus. Et puis alors, on restructure l'Église qui a été disloquée par la trahison de Judas. On procède à l'élection de Matthias, qui remplace Judas, vous vous rappelez. Et puis on répète, tous ensemble, ils se trouvaient le jour de la Pentecôte, dans un même lieu, ensemble, quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on lui dit de feu, elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors dans la BST, on marque le coup là et on procède, il y a une étape. Alors on a marché sous le soleil, il y a déjà 3 jours qu'on est ensemble, on s'est présenté vaguement dans la chapelle là, au départ, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et maintenant on commence à se connaître un peu et on a marché comme de la multiplicité à l'unité. Alors avant d'écouter ces grands textes là du décalogue, eh bien chacun, ça peut durer longtemps parce qu'on est quelquefois une bonne cinquantaine, alors dit en quelques mots, ce qu'il fait, ce qu'il est venu chercher, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il souhaiterait, s'il y a des améliorations à apporter au programme, qu'il n'attende pas le dernier jour pour les dire, etc. Et c'est extrêmement sympathique. D'ailleurs, on ne peut rien faire d'autre parce qu'il fait tellement chaud en été que quand on a trouvé un coin d'ombre, on ne peut que rester là jusqu'à ce que le soleil ait baissé, on puisse amorcer la montée à cette montagne-là qui est malheureusement terriblement difficile, il faut bien le dire. Alors, ici, on n'est qu'un petit groupe, on ne va pas faire ça, ce n'est pas la peine, non. Mais vous sentez cette marche de la multiplicité à l'unité, combien c'est important. Et vous vous rappelez la triple progression, découverte géographique du pays, découverte de l'histoire sainte comme notre histoire, et puis les plus beaux paysages qu'on s'offre les uns aux autres, c'est ceux qu'on s'offre justement, puisqu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand on a une certaine mise en commun et partage. Alors Dieu dit à Moïse, hein, va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain, car après-demain, Dieu descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Il faut se sanctifier pour aller à la rencontre de Dieu. Hein. Le saint, c'est le séparé. Et alors, il faut comme se séparer de tout ce qu'il y a de plus beau pour aller jusqu'à la rencontre de Dieu. Dans la certitude, d'ailleurs, que si on joue ce jeu-là, on aura un centuple qu'on trouvera d'autant plus qu'on ne le cherchera pas. Tenez-vous prêt pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme, il ne faudrait pas y voir là un tabou, hein. Il faudrait y voir là simplement enfin, une invitation à aller par-delà tout ce qu'il y a de plus beau pour aller à la rencontre du Créateur, hein, qui est par-dessus, par-delà tout ce qu'il y a de plus beau. Et saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit aussi que dans le mariage, il y a certains moments, bah, il ne faut pas se refuser l'un à l'autre, mais il y a, pour vaincre la prière, d'un commun accord, hein, pas se polariser par Dieu. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. La montagne du Sinaï était toute fumante. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et la montagne tremblait violemment. Le son de la trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Un langage nouveau encore. Hein. Après le langage dans la nature, le langage dans les prodiges et les merveilles, le langage dans la providence. Voilà maintenant le langage dans les éclairs et dans le tonnerre. Tu veux lire Décalogue peut-être ? Ça changera de voix. Hein.
Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu ne te souviendras pas du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ces sons de trompe et la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve. » Que Dieu est venu pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu.
C'est pour vous mettre à l'épreuve. Oui, ce langage dans les éclairs et dans le tonnerre, pour nous chrétiens, demande à s'insérer dans cette suite de langage que Dieu parle avant de donner sa révélation plénière. Et dans quelques jours, nous serons au bord du lac de Galilée, qui est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, dans un paysage radicalement différent de celui où nous sommes maintenant. Et nous entendrons les béatitudes dans une montagne aussi, mais qui, dont le sommet n'est même pas au-dessus du niveau de la mer, présentée non plus dans les éclairs et dans le tonnerre, mais dans un langage, comme une partition musicale qui est proposée aux spontanéités de la liberté pour le plein épanouissement de ce que Dieu a mis en nous quand il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il y a une pédagogie de Dieu qui se développe et loin de moi de nier l'importance du décalogue et puis de cette façon que Dieu a de parler quelquefois dans les éclairs et dans le tonnerre, on en a besoin pour être réveillé de nos abrutissements. Mais au fur et à mesure que la pédagogie de Dieu se développe, on se rend compte que Dieu qui est n'a pas besoin de paraître et quand il fait du bruit c'est exceptionnel. par condescendance, comme on dit dans la tradition, mais condescendance, une catabasis, comment traduire ça en français, condescendance a une signification péjorative, mais il se met à la portée des hommes par une pédagogie qui s'adapte. Alors quelquefois, l'autorité paternelle doit se manifester quelquefois de cette manière-là, pour le bien des enfants, mais pour une éducation qui se poursuit. Et alors quand on est ici au Sinaï, on ne peut pas séparer Moïse de Élie, pas plus qu'on ne pourra le faire à la montagne de la Transfiguration, que sur laquelle nous irons buter à l'extrémité nord du pays.